Craignant que l'oncle ne vînt les surprendre, ils n'habitèrent pas ensemble. Gaston loua à sa maîtresse une petite chambre et lui paya sa pension dans un hôtel voisin. Toute la journée, il se promenait en ville ou sur le bord de l'Escaut. Quand il faisait mauvais temps, il demeurait au café du Lion de Flandre, où il défiait au billard les artistes du cirque ambulant, pendant qu'Angèle lisait des revues en buvant de la bière. À plusieurs reprises, elle lui conseilla de chercher un emploi. Il bougonnait. « De quoi te plains-tu ? L'argent ne manque pas. N'avons-nous pas le temps de nous mettre la corde au cou ?» Le tenancier d'une maison publique de Tournai, Monsieur Jules, un des habitués du Lion de Flandre, les invita à passer une soirée chez lui. Ils s'y rendirent. Impressionnée à la vue de la lanterne rouge sur les vitres de laquelle un numéro se détachait en blanc, elle se rassura une fois entrée. La salle où l'on servit le thé ressemblait au salon d'un notaire campagnard. Monsieur Jules et son épouse se montrèrent aimables et quelque peu cérémonieux. La sonnette de la porte d'entrée tintait fréquemment. On n'entendait ni chant, ni cri. De temps en temps, une femme entrait, en long peignoir de couleur, le visage fardé, une large rose rouge dans les cheveux, demandait de la monnaie de 100 sous, et sortait vite en souhaitant le bonsoir. Angèle trouva la maison bien tenue. « Si un jour il me fait de la misère, je viendrai ici, » se dit-elle. Elle songea que pendant son absence, Gaston était sans doute devenu un client assidu, mais presque indifférente, elle ne s'arrêta pas à cette pensée. Elle sentait toujours rôder autour d'elle l'hostilité de l'hôtelier, qui ne cessait de conseiller à Gaston de se débarrasser de sa maîtresse, si bien qu'un jour, celle-ci s'emporta. « S'il est là de la vie commune qu'il le dise franchement, elle ne retournera plus chez elle. » « Ah non, plus si naïve !» Elle entrera tranquillement au numéro 16, chez Monsieur Jules, où on ne lui fera pas une mine d'enterrement. 8 jours après, il s'installait à Bruxelles, rue Van Artevelde, dans une petite chambre au 3e étage. Gaston écrivit à son oncle qu'il obtiendrait plus facilement un emploi à Bruxelles, et le vieux continua de lui envoyer 200 francs par mois. L'hôtelier de Tournai se vengea. Un matin que Gaston descendait sur le boulevard pour acheter ses journaux, il trouva, debout devant le kiosque, son père. « Tu es pris, mon gaillard !» Le jeune homme pâlit, mais quand son père lui eut tendu la main, il fut si heureux qu'il se sentit prêt à toutes les lâchetés. « Je veux voir cette femme !» Gaston consentit à le faire monter dans sa chambre, à condition qu'il ne reprocherait rien à sa maîtresse. Quand tous deux entrèrent, Angèle lisait. « Voici mon père !» Elle se leva, blanche, oppressée. Le vieux la regarda quelques instants en connaisseur. « C'est vous qui avez déserté avec mon fils ?»«
Oui, monsieur. »«
Votre mère vit encore ?»«
Oui, »
dit-elle en tremblant sous le regard fixe du père de son amant, qui la repoussait et lui semblait plus dur et plus méprisant que le seuil clos de la ferme paternelle. Puis il lui tourna le dos et s'adressa à son fils. « Mets ton chapeau et suis-moi, nous causerons au restaurant. » Il mit 100 sous sur la table. « Pour votre déjeuner, madame. » Et il sortit en faisant passer son fils devant lui. Pleurant de honte et de colère, elle se jeta sur le lit. Docilement, Gaston écoutait son père qui parlait sec. Et à la fin du repas, après le champagne, en fumant un excellent cigare français, il tendait le cou pour que le père le mît en laisse. Lui, Gaston Merville, pouvait-il s'acoquiner plus longtemps avec une fille de rien, une paysanne ? D'ailleurs, s'il s'obstine, la famille lui coupe les vivres, net. Tu vas rentrer à la caserne. J'ai des amis influents qui s'emploieront pour que la punition que tu n'as pas volée ne soit pas trop dure. Laisse-moi vivre encore un mois avec elle, dit le jeune homme. Après, je ferai ce que tu veux. Le consul de France promit d'accorder au déserteur un sauf-conduit qui lui permettrait de passer une journée chez ses parents avant de rejoindre son régiment. En partant, le père remit 500 francs à son fils, le félicita de sa résolution. Au jour fixé, l'oncle Jean viendra le chercher. Lorsqu'il vit le visage défait de sa maîtresse, il redouta une scène. Qu'elle se console, il ne se quitterait pas. S'il avait promis de retourner au régiment, c'était pour gagner du temps, et 500 francs. Il suivrait l'oncle Jean, passerait un jour dans sa famille, et au lieu de rentrer à Douai, il reviendrait à Bruxelles. Il parlait vite, affectait un ton dégagé. Angèle l'écoutait, attristée.
Elle se souvenait trop de leur séparation à Tournai pour ne pas comprendre que ces paroles hâtives n'étaient que des excuses dissimulées à l'injure qu'il lui avait faite en parlant d'elle avec son père. Silencieuse, elle écoutait, navrée de voir son amant si abaissé. Il aurait dû tenir tête à son père et la battre après. Tout le mois, ses pensées la suivirent. Avec leurs 500 francs, ils menèrent une vie large et joyeuse. Chaque jour, ils dînaient au restaurant, allaient au théâtre, au concert, passaient des après-midi au bois de la Cambre, à boire des cocktails et du champagne, si bien qu'il ne leur restait plus qu'une 40aine de francs lorsque l'oncle Jean arriva. Gaston fut le chercher à la gare. Il portait un énorme cabas de sparterie, rapiécé avec des carreaux de velours noir, rempli d'un lapin dépouillé dont les pattes dépassaient, de tartes et de grosses poires. Il étala le tout sur la table. Il parlait à Angèle avec une gaieté bourrue. « Si je vous avais trouvé à tourner, je vous faisais votre affaire. Enfin, tout est bien qui finit bien. » Il ne remarqua pas la crispation du visage de la jeune femme, ni le sourire de son neveu. Le soir, il les conduisit à l'Alhambra. Sur le boulevard, il donna le bras à Angèle, cérémonieusement, ce qui lui arrondissait le derrière. On jouait le bon vivant. Il liait conversation avec ses voisins, donnait tout haut ses appréciations, trouvait que la salle de spectacle n'était pas si coquette que celle de Charleville, éclatait de rire, disant qu'il riait non de la pièce mais du jeu ridicule des acteurs. Pendant les entr'actes, il payait à boire au premier venu, racontait ses campagnes. À la fin de la soirée, tous les consommateurs étaient ses amis et l'appelaient « mon oncle ». Peu à peu, Angèle se réconciliait avec lui, car il lui rappelait son oncle Alcide et lui dit quelques paroles gentilles. Alors il trouva qu'il avait une jolie nièce, la félicita de sa cuisine, lui demanda de préparer pour le lendemain des côtes de veau au cornichon. « La tante en fait tous les dimanches et je ne vous dis que ça. » Cependant, le lendemain soir, à l'heure du départ, il lui serra la main avec indifférence, persuadé qu'il ne la reverrait plus. Après avoir longtemps fouillé dans son porte-monnaie, comme s'il discutait avec son argent, il n'en tira qu'un louis qu'il mit sur la table. « Pour retourner chez vos parents. » Et il descendit pour laisser aux jeunes gens le temps de se faire leurs adieux. « Coue-moi un billet de 20 francs dans le col de ma chemise, » dit Gaston à sa maîtresse. « Je sais ce qui va se passer. » Rentré chez lui, le jeune homme fut fêté par toute sa famille. Mais le père défendit qu'on lui donnât de l'argent et même lui prit son porte-monnaie, qui ne contenait que quelques francs. Le soir, accompagné de l'oncle Jean, il reconduisit à Douai le déserteur. Pendant le trajet, le père, qui se défiait de la générosité de son frère, l'obligea à lui remettre l'argent qu'il avait sur lui. Au buffet de la gare de Douai, ils burent une bouteille de vin. Gaston, qui paraissait très calme, pria son père de prévenir de son arrivée le maréchal des logis de garde. Pendant l'absence du père, qui devait être très courte, il sortit à l'urinoir. Son oncle voulait le suivre, mais le garçon l'arrêta à la porte. Qui paierait les consommations ? Après avoir rempli la salle de cris et de jurons, le vieux se rassit en se disant que son neveu n'avait pas d'argent. Mais comme celui-ci ne paraissait pas, il s'inquiéta. Il allait forcer la porte ou laisser sa montre en gage lorsque le père rentra. Quand il vit son frère seul, il jeta 100 sous sur la table et courut sur les quais. Personne. Le rapide de Valenciennes venait de partir. Il comprit qu'il était joué. Les deux frères sortirent de la gare en se couvrant mutuellement d'injures. À 5 heures du matin, pâle, fiévreux, Gaston arrivait rue Van Artevelde. Angèle l'accueillit avec une joie affectée. Connaissant la veulerie de son amant, elle ne comptait pas sur son retour et déjà s'habituait à la séparation. Puis elle songeait avec appréhension à la gêne où ils allaient se trouver. Du billet de 20 francs que Gaston avait emporté, il restait 7 francs. Elle tira de l'armoire la pièce de 5 francs qui lui rappelait le méprisant « Pour votre déjeuner, madame !» et le louis qui lui rappelait l'indifférent « Pour retourner chez vos parents, madame !» Debout auprès de la table, les deux jeunes gens regardaient, songeurs, leurs 32 francs. « Il faut travailler, » dit-elle. « C'est tout ce que tu trouves, tu ne te mets pas en frais d'imagination !» Il écrivit à son oncle, à son père, qui ne répondirent pas. Quand le loyer de la chambre fut payé, il leur resta 5 francs. Ils engagèrent au Mont-de-Piété, montre, effet, bibelot. Au bout de 8 jours, il n'avait plus ni sou ni rien. Gaston adressa à son oncle une lettre éplorée qu'il n'affranchit pas, disant qu'il se trouvait sur le pavé de Bruxelles, et que si sa famille l'abandonnait, il se jetait à l'eau. 2 jours se passèrent, interminables. Ils vécurent avec une pièce de 40 sous qu'il emprunta à un déserteur français qui vendait des cartes postales au pied du palais de justice. 4 fois par jour, il allait au bureau de poste et revenait la tête basse, sans regarder sa maîtresse qui, à la fenêtre, guettait son retour. L'après-midi du 3e jour, elle se coucha, n'ayant mangé qu'un petit pain d'un sou le matin. Le jeune homme pleurait, lui demandait pardon de la rendre si malheureuse, jurant de travailler s'ils arrivaient à sortir de ces mauvais moments. Engourdie de tristesse et de faim, elle ne répondait pas. Il lui semblait qu'elle devenait légère, légère, que bientôt elle ne sentirait plus sa tête peser sur l'oreiller, et qu'alors elle serait morte. Il était bon qu'il en fût ainsi, elle ne souffrirait plus, et son amant vivrait plus heureux, délivré d'elle. Celui-ci, assis dans un fauteuil, la tête sur le bord du lit, continuait de pleurer, puis tous deux s'endormirent. On frappe à la porte. Le facteur entre, fait signer sur un registre le jeune homme hébété et lui remet 30 francs. « Angèle, Angèle, éveille-toi ! L'oncle Jean envoie 30 francs !» Pendant qu'il courait chez le boulanger et le charcutier, elle se leva en soupirant. Elle n'avait plus faim, et puis recommencer à vivre cette vie de paresse, de bombance et de privation. Quand ils se furent restaurés, ils allèrent rembourser le camelot, qui parut surpris. « Vrai, dit-il, c'est la première fois que je revois de l'argent prêté. De déserteur à déserteur, on se passe 40 sous. Quand on arrive ici, on tire la langue, puis peu à peu, on se débrouille, on gagne sa petite vie. » Angèle lui demanda ce qu'il fallait faire pour cela. « Cela dépend, dit-il. Il y a des bourgeois qui désertent, parce qu'au régiment, ils ne sont pas libres de fainéanter ou de nocer à leur aise. Comme ils savent qu'on s'amuse presque aussi bien à Bruxelles qu'à Paris, en route pour Bruxelles. Les parents sont riches, ils ont de l'influence. Ils trouvent toujours le moyen de faire rentrer leur fils en France. Ceux qui, comme moi, n'ont pas le sou, se mettent camelots, chanteurs ambulants, garçons de café, rabatteurs pour bookmakers. Ceux qui ont passé la frontière avec une femme ne travaillent pas au bout d'un mois. Ils louent à leur maîtresse un carré de bitume avec une superbe plantation de becs de gaz, sur le boulevard du Midi ou la place de la Constitution. La concession est gratuite et l'exploitation est contrôlée officiellement. Et nous, que pourrions-nous faire ? Je vais vous donner une idée, une fameuse. Fabriquer des étiquettes. Gaston se rapprocha. Oui, des étiquettes, des pancartes, des prix courants, en carton, en celluloïde. Pour les marchands de cigares, Havane, 25 centimes. Pour les charcutiers, jambon, 2 francs la livre. Pour les modistes, quincaillers, etc. Tous les commerçants en ont besoin presque chaque semaine. Chargez-vous en même temps des inscriptions en rouge et noir sur bande de calicot. Liquidation, grande exposition de blanc. J'ai tâté du métier. Je n'ai pas réussi parce que j'écris trop mal et que je fais des fautes d'orthographe. Mais si vous avez de l'instruction, vous pouvez gagner facilement 200 francs par mois. Par exemple, il faut se remuer. Vous, la bourgeoise, vous passez chaque jour dans les magasins pour prendre et livrer le travail. Avec 100 sous de carton et de celluloïde, 2 bouteilles d'encre, 1 flacon de dorure, un assortiment de grosses plumes, vous êtes monté. En le quittant, Angèle donna une bonne poignée de main au camelot qui se remit à crier ses cartes postales. Le soir même, pendant que Gaston, décidé à travailler, achetait les fournitures nécessaires, elle fit bravement le tour des magasins du quartier et elle eut la grande joie d'inscrire une longue liste de commandes, toute pressée. Enfin, elle tenait le pain quotidien. Elle résolut de se rassurer définitivement. Gaston ne rechignait pas à ce travail facile, qui ne l'empêchait pas de fumer des cigarettes. Elle se fit caressante, l'encouragea, chanta, se mit à découper le carton, le celluloïde en rectangles, en losanges, en cœur. Elle courait chez le libraire, les commerçants, recevait l'argent. Et quand elle rentrait, encore tout essoufflée de la course, elle faisait sonner sur la table les pièces de 100 sous, en lui disant que c'était lui qui gagnait tout cela. Pour le récompenser, elle se privait de poudre de riz, de crème Simon, et lui achetait une boîte de cigares ou un paquet de Bastos. Elle le cajolait, le flattait comme un enfant, craignant toujours qu'il ne se dégoûtât de son travail. Peu à peu, elle se rassura. Gaston s'intéressait à sa besogne, demandait si les clients étaient contents, et Angèle rapportait d'hyperboliques éloges de charcutier et de mercier, que le jeune homme trouvait juste, en fumant un cigare. Parfois, quand il venait de terminer une étiquette, il la mettait au bout de son bras, l'appelait sa maîtresse, lui faisait remarquer la rectitude et le parallélisme des jambages, l'élégance des majuscules rouges, et tous deux convenaient que c'était là du travail soigné. Angèle l'embrassait, le tenait pour un homme supérieur, ce dont il s'enorgueillissait. Jamais elle ne lui parlait des rebuffades qu'elle essuyait, des propositions déshonnêtes que lui faisaient des commerçants dont les affaires se traitent dans l'arrière-boutique, du sourire méprisant ou ironique de commerçante qui affectait de la prendre pour une prostituée se rendant à domicile. Elle se trouvait trop heureuse pour souffrir de ces affronts. Toute la journée, elle voyait son amant à son établi, en longue blouse blanche. Il chantonnait et parfois se tournait vers elle pour lui faire un petit signe de tête. L'oncle Jean envoyait régulièrement 30 francs chaque semaine. Les deux jeunes gens gagnaient environ 150 francs par mois, dépensaient peu, n'allant au théâtre ou au concert que le dimanche. Quand le temps le permit, ils firent des promenades à la campagne et une excursion à Waterloo. Au bout de quelques mois, ils achetèrent quelques meubles. Angèle rêvait d'avoir une machine à coudre. Un jour que Gaston était occupé à écrire de sa plus belle bâtarde « Salaison » sur un rectangle de Bristol, tandis que dans un coin Angèle découpait du celluloïde, le père entra. Il courut à eux les larmes aux yeux, les embrassa tous les deux. « à la bonne heure, tu travailles. Et vous aussi, ma fille, vous travaillez. C'est extraordinaire !» Il pleurait en riant, les secouait pour les embrasser, donnait à son fils des tapes dans le dos. « C'est très bien. Enfin te voilà raisonnable. Il faut l'encourager, ma fille. C'est un brave garçon, voyez-vous. Il ne lui manquait qu'un peu de plomb. C'est ton oncle qui va être content. Je vous enverrai des commandes, vous ne manquerez pas de travail. Et si vous continuez, je ferai quelque chose pour vous. Vous verrez ce que je ferai pour vous. » Il était si heureux qu'il les emmena dîner dans un restaurant des boulevards où il paya du champagne. Ils passèrent la soirée à l'Alhambra et la nuit dans une taverne où le père, de plus en plus joyeux, dépensa une centaine de francs. « Je suis content, jamais tu ne m'as fait tant plaisir. Quand je raconterai cela à ton oncle, il ne me croira pas. Il viendra voir ton installation. Vous achetez des meubles avec vos économies, c'est extraordinaire. Garçon, une bouteille de Liebhoffmilch. Préférez-vous le Rudesheim ?» Angèle avoua qu'elle n'avait jamais bu de vin du Rhin. « C'est très bien, je vois que vous êtes une femme sérieuse, une femme d'ordre, une femme que je jugeais mal. Il faut oublier ma première visite. Prenez donc des écrevisses. Alors, c'est vous qui... » Il plaça le menu entre l'index et le majeur de la main gauche, comme entre les lames de ciseaux rapides. « C'est vous qui découpez le carton. C'est parfait. Et tenez mon gaillard à l'œil, n'est-ce pas ?» Angèle, grise, lui confiait ses projets. On allait prendre une apprentie. La semaine prochaine, on aurait une commande de 12 bandes de calicot, liquidation pour cause de cessation de commerce, à 10 francs pièce. Gaston, l'œil brillant derrière son binocle, serrant son cigare dans ses dents, les lèvres en U, souriait. « Quand on travaille, dit le père, on est respectable. Qui est-ce qui aurait jamais songé à faire des étiquettes? Ce n'est pas l'intelligence qui lui manque à ce gaillard, c'est un peu de plomb, un peu de plomb. » Ils sortirent, parlant haut, gesticulant, glorifiant le travail avec une émotion qui leur gonflait le cœur et faisait trembler leur voix. « Je m'occuperai de vous, disait le père, vous verrez. » Deux agents de ville qui se dandinaient sous un bec de gaz sourirent en les voyant passer. Gaston grommela en les traitant de fainéants.